Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission Histoire d'en savoir plus. Et aujourd'hui, histoire d'en savoir plus quand on est prêtre à Paris. Et pour cela, nous recevons Bertrand Bousquet, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Prêtre de Paris, une vie en Église ». Ce livre est publié aux éditions Harmattan, dans la collection « Graveur de mémoire ». Bonjour mon père.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de publier ce livre ?
Eh bien, j'avais commencé à écrire des souvenirs, mais voilà, et je me suis aperçu finalement qu'au fil des, pages, ça pouvait peut-être intéresser d'autres personnes.
Voilà. Ce n'est pas votre première publication ?
Pas tout à fait. J'ai publié il y a très longtemps un petit livre qui s'appelle Paradoxologie, aux éditions Caractère.
Et ça veut dire quoi ça ?
Ah, paradoxologie, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire, c'est à la fois une paradoxologie, c'est-à-dire une sorte de louange de Dieu, et puis en même temps une paradoxologie, c'est-à-dire un discours paradoxal. Voilà.
Alors justement, quand on lit votre livre, on a l'impression que c'est effectivement presque un journal. Un journal dans lequel vous incluez les actualités de ce temps-là.
Oui, oui, oui. C'est en effet un journal... mais pas, je raconte pas tout. J'ai choisi des faits, des choses auxquelles j'ai assisté, des personnes que j'ai rencontrées, parce que ça m'a paru important. Et puis en même temps, il y a une continuité d'une vie. Donc c'est à la fois des moments clés, et puis il y a quelquefois un quotidien, je dis pas, c'est pas la routine, mais un peu le quotidien d'un prêtre à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe.
Vous êtes né dans une famille où on était pratiquant, oui. Ce qui n'a jamais posé de problème pour vous. On a l'impression que vous ne vous êtes même pas posé la question quand il a fallu
C'est parce que je ne me raconte pas.
Bon, c'est ce que j'ai remarqué. Vous êtes extrêmement, je dirais, modeste et puis, modeste.
En tout cas, le propos n'était pas de me raconter, mais plutôt de raconter ce à quoi j'ai assisté, ce dont j'ai été témoin. C'est plutôt ça.
Avec une importance de la famille extrêmement importante, tout le temps.
Oui, de fait, ma famille est une famille nombreuse. Je vais dire par là que j'avais 8 frères et sœurs, il m'en reste encore 7. Et 21 neveux et nièces, sans compter les valeurs ajoutées. J'en suis à 28 ou 29 petits-neveux et petites-nièces. Et c'est vrai que c'est important pour moi, c'est une force. Pour un prêtre de pouvoir compter sur ces racines-là.
Et quand je dis que cette vie de famille est très florissante, c'est qu'effectivement, vous vous déplacez ou vous recevez pour le baptême les enfants et les petits-enfants de vos frères et sœurs, mais quand dans votre vie de prêtre, il se passe quelque chose d'important, ils viennent vous entourer.
C'est vrai, à l'occasion, pour un anniversaire d'ordination, par exemple. Je me souviens, pour mes 25 ans de sacerdoce, 5 ou 6 de mes frères et sœurs sont venus me voir, on a fait la fête. Oui, tout à fait.
Ah, vous dites, on a fait la fête. Et ça, je l'ai remarqué, c'est que très souvent, à l'occasion d'une messe précise, après, il y a soit dans la paroisse... l'apéritif, ou vous déjeunez ensemble, ou vous faites effectivement des repas conviviaux.
Tout à fait, je pense que c'est un aspect important du ministère, de pouvoir rassembler les gens, et après tout rassembler les gens autour d'un bon repas, ou d'un apéritif, ou de quelque chose comme ça, un petit verre de l'amitié, c'est presque irremplaçable.
Oui, c'est important.
Oui, c'est important. Ça permet de bavarder, d'échanger, de rire et puis d'aller plus loin ensuite.
Ah bon, ça fait partie finalement des rapports avec les paroissiens notamment.
Oui, c'est tout naturel, c'est pas une stratégie, mais c'est parce que tout simplement dans la vie, on sait bien que la convivialité est une part importante de l'existence et que lorsqu'elle disparaît, les relations humaines ne sont plus ce qu'elles devraient être.
Au départ, vous vouliez être historien.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Vous c'est avez ce fait que des études.
Oui, j'avais commencé des études d'histoire, licence, préparation à l'école des chartes. Et puis, les circonstances ont fait que finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Et je ne m'en plains pas.
Vous êtes prêtre de l'église latine, alors que dans vos études pour entrer à l'école de Chartres, le latin vous a fait des misères.
Tout à fait, c'est paradoxal, mais effectivement, mes notes en histoire étaient bonnes, il faut le dire, alors que le latin, vraiment, ça n'avait pas entré dans mon cerveau obtus.
Ah, la langue... Pourtant, le grec marchait bien.
Oui, le grec, j'aime beaucoup le grec. C'est la langue grecque, c'est vrai, ça. Alors que la langue latine, non, j'accrochais pas. Or, l'école des Chartres prépare au diplôme d'archiviste paléographe,
hein, oui,
qui est un diplôme de niveau assez élevé, où il faut quasiment parler couramment latin. Et donc, j'étais coulé deux fois au concours à cause de mes insuffisances en latin. Et finalement, grâce à ça, en effet, j'étais disponible quelques années plus tard pour pouvoir devenir prêtre dans notre église latine. Voyez.
Vous avez été chez Lanza del Vasto. Et ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu le livre, parce que j'y avais été aussi, moi, une petite semaine.
Ah, très bien.
Et je me suis demandé pourquoi vous n'êtes pas resté compagnon à l'Arche, finalement.
À cause de ma vocation sacerdotale.
Ah oui.
Tout simplement.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on est prêtre diocésain, on est prêtre pour tout le monde. Normalement, c'est ça. On n'est pas spécialisé. Et donc, bien sûr, ma sensibilité à la non-violence, à l'écologie, cette sensibilité elle est tout à fait intacte. Mais il n'était pas possible que je sois compagnon de l'Arche de Lanza tout en étant prêtre. Et donc, il fallait choisir. Voilà, il fallait choisir. Et j'ai choisi.
Par contre, vous avez choisi de faire la coopération quand il a fallu faire votre service militaire, au lieu d'être objecteur de conscience.
Oui, là aussi, c'est parce que c'était plus facile, tout simplement, pour pouvoir retrouver un poste qui m'intéressait, c'est-à-dire enseigner la langue française dans la brousse africaine.
C'est une expérience importante.
Très importante. Ça a compté énormément pour moi. D'ailleurs, c'est en Afrique que j'ai décidé finalement de me présenter comme candidat pour le sacerdoce. Quand je suis parti en Afrique, je ne pensais pas au sacerdoce. Et c'est en Afrique que finalement je me suis interrogé là-dessus et revenu à la surface une vieille interrogation qui avait quasiment disparu.
Mais qui restait dans un petit coin de votre tête,
oui,
peut-être.
Oui, probablement, oui, il faut croire, oui.
Parlez-nous un petit peu de justement ce que vous avez fait en Afrique à ce moment-là.
Eh bien, j'étais enseignant dans un collège, donc c'était dans la brousse, mais c'était quand même tout près de la capitale, c'était une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou. Et donc, avec quelques autres coopérants français, nous étions chargés d'enseigner dans ce grand collège qui formait normalement des élèves en vue d'être frères. Les frères frères de la Sainte Famille. La plupart ne devenaient pas frères, la plupart faisaient de bonnes études pour pouvoir ensuite continuer, si possible, devenir fonctionnaire, faire des études supérieures, ou simplement se rendre utile dans leur village avec ce qu'ils avaient acquis comme formation.
Mais vous avez fait quand même un peu de catéchèse à ce moment-là.
Pas vraiment, non, il y avait sur place ce qu'il fallait, il y avait un vieux prêtre suisse qui était l'aumônier de la maison, et puis il y avait les frères qui faisaient de la catéchèse. Mais c'est vrai que c'est une maison catholique, avec la messe tous les jours, je n'y allais pas tous les jours, mais il y avait tout ce qu'il fallait pour les élèves, et inévitablement, il y avait un rythme de prière qui favorisait la vie chrétienne, tout simplement, y compris des coopérants qu'ils voulaient, ce qui n'était pas forcément le cas de tous.
On va écouter un premier extrait musical, et puis tout de suite après, nous reviendrons sur votre amour de la musique, et du chant choral notamment.
Thank you.
Vous écoutez Radio Grand Ciel et nous recevons aujourd'hui le père Bertrand Bousquet qui sort un livre aux éditions L'Harmattan intitulé « Prêtre de Paris, une vie en église ». Vous aimez particulièrement l'orgue, mais aussi la musique en général, mon père.
Tout à fait, tout à fait. J'ai baigné dans la musique depuis le début, grâce à ma sœur aînée qui est pianiste. Et puis, il se trouve que la musique, effectivement, a été présente. Ma seconde sœur est une grande chanteuse aussi, une grande choriste, musicienne. Elle a composé aussi des choses. Et puis, toutes mes autres sœurs, ou presque toutes, étaient également de bonnes, ou sont de bonnes chanteuses, et mes frères aussi. Donc, on a beaucoup chanté, et moi-même, tout naturellement, je m'y suis.
En chorale, vous.
En chorale, absolument, en chorale.
Et alors, ce qui m'a plu dans votre livre, c'est que vous dites assez régulièrement que c'était une belle messe. Et pour vous, une belle messe, c'est une messe où il y a eu une belle musique.
Ça compte, bien sûr.
Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a la ferveur des prières aussi.
Bien sûr, tout à fait. Mais c'est vrai que la liturgie est la mère de tous les arts, et notamment de la musique. Et je crois qu'il faut que cette source soit toujours présente, vivante, et puisse fournir, y compris en notre temps, des idées aux musiciens. Et je crois que c'est important.
C'est important. Et est-ce que ça veut dire que quelquefois... Il y a des messes qui marchent moins bien.
Oh ben ça, il en faut pour tous les goûts de toute façon. Mais je pense que le souci d'une liturgie qui puisse exprimer à la fois ce qu'est la parole de Dieu et qui puisse aussi permettre aux pauvres gens que nous sommes d'exprimer nos prières, une liturgie comme celle-là ne peut que qu'être glorifié, enrichi, épanoui grâce à la musique.
Quand vous êtes revenu en France, c'était en 1975, vous êtes donc revenu, vous nous l'avez dit tout à l'heure, avec le projet de devenir prêtre.
Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est à ce moment-là que j'avais écrit à l'avance au supérieur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux, qui était le seul séminaire, à part le séminaire universitaire des Carmes, c'était le seul séminaire interrégional à cette époque-là, à Paris, donc pour Paris et les départements, les diocèses voisins, immédiatement voisins, y compris d'ailleurs le diocèse, non pas le diocèse de Chartres, mais beaucoup de diocèses voisins. Mais je pensais à Chartres parce que l'actuel évêque, Monseigneur Ponsard, Michel Ponsard, était formé en même temps que moi dans ce séminaire. Moi, je l'ai bien connu à cette époque-là.
Et si je dis que le livre s'appelle « Prêtre de Paris », ce n'est pas par hasard, parce que vous vouliez être prêtre à Paris, ou
oui.
Tout au moins pas très loin.
Oui, en tout cas, tout prêtre est prêtre pour une église. On n'est pas prêtre tout seul. C'est comme un mariage, il faut être deux. Donc, un prêtre est toujours prêtre pour une église. Et les circonstances font que ce sera pour telle ou telle église. Ça peut être Paris, ça peut être Nanterre, ça peut être Chartres, ça peut être une autre église, qui fait qu'il y a une sorte de contrat qui se noue entre le séminariste qui se prépare pour cette église-là et puis l'église qui est bien d'accord pour l'accueillir et le préparer.
Quand on est prêtre comme ça, quel est l'emploi du temps? Parce qu'on a l'impression que vous travaillez énormément, que vous ne pouvez même pas aller au concert, par exemple, pas toujours.
Pas beaucoup. Il faut vraiment retenir sa soirée à l'avance. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'aller au concert.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est quand même pas très fréquent. C'est pas très fréquent. J'essaye de me débrouiller pour aller de temps en temps quand ce sont des amis qui chantent, par exemple, j'essaie de me dégager une soirée pour aller les entendre.
Oui. Racontez-nous un peu ce qu'est votre travail.
Mais ça dépend, c'est très varié. L'emploi du temps, ça change beaucoup finalement. Mais bon, un prêtre de paroisse, il y a quand même des choses qui sont basiques. C'est-à-dire, comme on dit toujours, il y a les baptêmes, les mariages, les enterrements, les messes de semaine, les messes du dimanche, toutes ces choses qui sont fondamentales dans la vie d'un prêtre de paroisse. Et puis, il peut y avoir des choses plus moins fréquentes, ou en tout cas qui dépendent de chaque prêtre, de chaque mission qu'un prêtre. Je suis actuellement prêtre dans une grande paroisse de Paris où il y a donc beaucoup de choses qui se passent. Et mon curé, je suis vicaire, j'ai été curé trois fois dans ma jeunesse, maintenant place aux jeunes, mon curé m'a confié plus particulièrement certaines choses. Je m'occupe de la préparation au mariage, je m'occupe du du pré-catéchisme, ce qu'on appelle le grand éveil.
Qu'est-ce qu'on appelle le grand éveil?
Et ben le grand, c'est-à-dire c'est pour les enfants qui sont pas encore au catéchisme et qui veulent quand même venir pour faire quelque chose. Alors on les accueille tous les 15 jours, on leur parle de Jésus, on leur fait faire des découpages, des collages, on les fait chanter bien entendu.
Et c'est puis, assez nouveau ça, non?
Il y a pas mal de paroisses de Paris où on essaye de faire ça quand même, oui, effectivement. Et puis, par ailleurs, je m'occupe également d'un, comme prêtre référent, comme on dit, d'un grand lycée technique dans le 16e arrondissement. Il y a à peu près 750 élèves, enfin, c'est pas très grand, mais c'est un lycée où, catholique et où donc la présence d'un prêtre de temps en temps est souhaitée, et je pense effectivement souhaitable, pour célébrer des messes, pour accueillir les jeunes. Actuellement, j'accueille régulièrement quelques jeunes en préparation à la confirmation, des jeunes de seconde, de première, de terminale.
Et puis, on le disait tout à l'heure, vous avez eu une vie familiale extrêmement suivie et importante. Vous allez en vacances tous les ans en Bretagne, mais il y a autre chose que vous faites aussi, c'est que vous vous occupez des camps scouts. Vous allez en visite. Alors, quel est le rôle de cette visite?
Alors, le rôle d'un aumônier scout, c'est, il peut être là aussi, chacun le fait comme il l'entend. Moi, j'ai été surtout aumônier scout il y a pas mal d'années maintenant, et dans un très gros groupe scout à Paris. Et donc, une bonne partie de l'été, j'allais visiter les camps. Le passage de l'aumônier est important. Il ne remplace absolument pas le rôle, il ne se substitue pas au rôle des chefs et des chefs ten scouts qui ont toute leur place. C'est pour ça d'ailleurs que le scoutisme est un peu un modèle de responsabilisation, de responsabilité des laïcs dans l'Église. Mais lorsque le prêtre est là, il y a une petite dimension en plus qui est importante, c'est la dimension de l'ouverture à l'universel, l'ouverture à l'Église. Et justement, un louveteau, un scout, une Jeannette, une guide a besoin à la fois de vivre cette dimension communautaire que le scoutisme lui donne et en même temps de s'ouvrir à une dimension plus universelle. Et là, c'est un peu le rôle de l'aumônier de le faire. Alors aujourd'hui, je suis encore un petit peu aumônier scout, mais beaucoup moins. J'aide ponctuellement un jeune aumônier qui a un très gros groupe et qui a besoin de temps en temps de la présence d'un vieux secours comme le mien.
Mais très souvent, vous êtes resté, puis-je dire, ami avec des anciens scouts ou des anciens paroissiens.
Tout à fait. En fait, dans toutes les paroisses où je suis passé depuis le début, j'ai toujours gardé les amis, y compris ma toute première paroisse où j'étais jeune vicaire pendant 2 ans à Saint-Michel-des-Batignolles. Et même là, je ne suis pas resté très longtemps pourtant, mais j'ai gardé les amis et toutes les autres paroisses, j'ai gardé les amis. Effectivement. On finit par traîner sa petite paroisse personnelle, comme l'escargot qui porte sa petite maison sur son dos. Et notamment, c'est vrai, d'anciens scouts, parce que ce sont des relations très fortes. L'avantage du scoutisme, c'est que les jeunes ne se contentent pas de bavarder. Ils font des choses ensemble.
Par exemple, l'électricité de l'église.
Ça peut être ça. Et puis aussi, l'ouverture à l'écologie, à la nature, le fait d'être capable de se débrouiller dans une forêt sans y mettre le feu.
Ah oui, ça c'est traditionnel hein, pour les élèves scouts.
Il y a vraiment des activités communes, aussi bien en ville qu'à la campagne, qui forgent un groupe de jeunes, et ça c'est vraiment irremplaçable. Ils ne se contentent pas de parler, ce qui est très important, mais en plus ils ont des activités communes, et ça c'est irremplaçable.
Page 84, vous écrivez « Un prêtre est indispensable à une vie ecclésiale équilibrée ».
C'est en effet mon avis. En tout cas, je dirais même un prêtre diocésain.
Oui.
J'ai beaucoup de respect pour les religieux prêtres, les religieux en général et les religieuses, et puis en particulier les religieux prêtres. J'avais moi-même 2 oncles de dominicains, donc prêtres et religieux, un cousin germain également, et je pense que c'est tout à fait important. Mais ça ne peut pas remplacer le prêtre diocésain dans la mesure où un religieux, forcément, a une espèce de spécialisation spirituelle. C'est bien normal. Il appartient à une communauté précise, à une tradition précise, une spiritualité particulière. Alors que le prêtre diocésain, à mon avis, doit s'efforcer, encore une fois, d'être ouvert à tous. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on est omnipotent et qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi. Mais je veux dire qu'il doit avoir un intérêt, une attention à tout le monde, ce qui est le propre d'ailleurs d'une paroisse. Une paroisse, les gens sont là parce qu'ils habitent au même endroit, pas parce qu'ils n'ont pas décidé de se rassembler de se rassembler autour d'une spiritualité particulière. Même à Paris, où il y a quelques paroisses un peu spécialisées, où les gens aiment se retrouver parce qu'ils sont, charismatiques ou traditionnalistes ou simplement plus jeunes et ils ont envie de se retrouver entre jeunes. Même dans ces cas-là, il y a quand même la grosse paroisse parisienne où les gens sont là parce qu'ils habitent à côté, tout simplement. Et donc, il y a de tout.
Vous avez employé le mot écologie. C'est une chose qui est extrêmement importante pour vous, mon père.
Oui. Je m'intéresse à l'écologie, y compris l'écologie politique. Il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire ce souci de mettre effectivement l'écologie dans la prise de décision des responsables des affaires publiques. Et ça, je m'y intéresse depuis très longtemps, puisque je me souviens très bien dès 1974, il y avait un candidat écologiste à l'élection présidentielle, et je trouvais intéressant qu'il puisse s'exprimer.
Donc c'est une chose que vous reprochez, entre autres, à Jean-Marie Lustiger.
Ah, de fait, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Marie Lustiger, mon ancien archevêque de Paris, qui avait des qualités extraordinaires et même un certain génie, il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est vrai que j'ai toujours observé son ignorance totale des enjeux environnementaux et de l'écologie, ça c'est sûr.
Parce que dans ce livre, vous nous faites partager toutes vos rencontres avec des gens, même des gens célèbres qui viennent dans votre paroisse, ou bien Guy Gilbert qui intervient comme intervenant extérieur.
Oui, c'est vrai que inévitablement, mais peut-être aussi un peu par hasard, j'ai effectivement rencontré un certain nombre de gens assez connus, et donc c'était l'occasion d'avoir un regard, encore une fois, d'historien. C'est toujours un peu ça, mon regard.
Oui, c'est ça.
Je prétends pas que mon livre soit un livre d'histoire, c'est plutôt un témoignage pour l'histoire. Et l'historien, il a un certain esprit critique. Il est là pour exercer son jugement. Dans l'Évangile, le Seigneur dit qu'il ne faut pas juger, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exercer son jugement. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'ériger en juge. Il ne faut pas condamner, parce que Dieu seul connaît les reins et les cœurs et les motivations et les circonstances atténuantes. Donc on ne peut pas condamner qui que ce soit. En revanche, le rôle de l'historien, c'est précisément d'exercer son jugement.
Mais vous ne vous gênez pas dans votre livre pour donner votre avis à ce sujet, et très régulièrement.
C'est vrai. Peut-être que ça ne plaira pas tout à fait à certains, en effet, à cause de cela. Mais il y en a d'autres, je sais que ça a fait rire.
Bon, tant mieux. On arrive presque déjà à la fin de cette émission, parce qu'avec vous, le temps passe très très vite, mon père. Et je voudrais quand même qu'on parle de ce qui est arrivé à cette petite église, qui avait l'air d'une petite église de campagne en plein Paris, qui s'est fissuré, et ça n'a pas été quelque chose de bon pour vous.
Oui, vous faites allusion bien sûr à Charonne.
Oui.
L'église de Charonne est en effet une ancienne église de campagne qui a été absorbée par Paris lorsque Paris s'est étendu considérablement au XIXe siècle. Et en 1860, Napoléon III donc a absorbé dans Paris, annexé à Paris un certain nombre de communes voisines, dont la commune de Charonne, qui a entièrement disparu, qui est devenue une partie du 20e arrondissement de Paris. Et donc la petite église est restée, c'est une petite église qui est très ancienne, puisque la partie la plus ancienne date du 12e siècle, et il se trouve que récemment, elle a subi effectivement des dégradations très graves à cause de chantiers à proximité qui ont bétonné un maximum. Et donc les eaux pluviales, il fallait bien qu'elles passent quelque part, et elles sont passées sous l'église. Et donc ça a fragilisé considérablement le sol, et de grandes fissures sont apparues. Il a fallu effectivement fermer l'église et refaire des travaux très longs pour consolider le sous-sol avec des résines expansives, avec des mini piliers en béton. Et pendant ce temps-là, l'église a été fermée. Donc, elle a été fermée du 3 décembre 2009, je m'en souviens encore. C'est moi qui l'ai fermée, c'est pas facile de fermer son église. Elle a été rouverte le 16 juin, je crois, 2016. Donc ce sont des travaux.
Mais entre deux, vous étiez dans une autre église, toute moderne, celle-là, et ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile. Effectivement, on avait une église de secours. Mais il se trouve que cette église de secours était occupée par, de façon légitime, mais abusive cependant, par une communauté étrangère. Et la cohabitation, il a fallu cohabiter avec eux, et ça n'a pas été facile. Et effectivement, je raconte cela parce que, non pas pour me désoler ni pour régler les comptes, mais parce que c'est un jeu. Là aussi, c'est pour l'histoire. Il y a eu des décisions qui ont été prises par l'archevêché de Paris, ou plus exactement des décisions qui n'ont pas été prises, alors qu'elles auraient dû l'être, à mon avis. Et finalement, ça a motivé, au bout d'un certain temps, ma démission.
Mais là, justement, vous écrivez dans votre livre « Il faut savoir dire non ».
Oui, je pense qu'il faut savoir dire non. On dit toujours qu'il faut savoir dire oui, c'est vrai, mais il faut aussi savoir dire non. Parce que quand on dit oui à tout, ça n'est pas forcément la bonne décision.
Ce livre s'arrête en 2012. Vous écrirez la suite, mon père ?
Peut-être. Allez savoir.
En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Merci
à vous.
Je
donne les références de ce livre dont nous avons parlé aujourd'hui dans Histoire d'en savoir plus. Il s'agit du Prêtre de Paris, une vie en église, écrit par Bertrand Bousquet dans la collection Graveur de mémoire aux éditions L'Harmattan. Merci mon père.
Merci à vous et merci à Radio Grand Ciel.